Chapitre 13. Le début de ce chapitre montre Jésus agissant conformément à ses paroles. Il quitte les limites étroites de la maison et sort pour aller près de la mer, symbole des nations. Là, depuis un bateau, il commence à enseigner la foule à l'aide de paraboles. Ce chapitre en contient 7. Relevons d'abord l'expression du verset 52. Des choses nouvelles et des choses vieilles qui nous aident à saisir le but des paraboles. Des choses vieilles sont mentionnées, le royaume des cieux par exemple, annoncé en Daniel. Mais ce sont les choses nouvelles qui prédominent. Avant de considérer les paraboles un peu plus en détail, nous indiquerons 4 choses nouvelles. Premièrement, le Seigneur adopte une nouvelle méthode d'enseignement, par parabole. Le verset 10 montre que cette innovation a frappé les disciples. Deuxièmement, il indique dans la première parabole une nouvelle méthode du travail divin. Au lieu de chercher du fruit comme résultat du labourage de Dieu par la loi et les prophètes, il allait semer la parole pour produire du fruit. Troisièmement, Jésus présente des développements qui donnent une signification nouvelle à l'expression « royaume des cieux ». Quatrièmement, il prononce des révélations nouvelles, ouvrant la bouche pour annoncer des choses qui ont été cachées dès la fondation du monde. Verset 35. La première parabole est complète en elle-même, et si nous ne la comprenons pas, nous ne comprendrons pas les autres. La grande affaire désormais serait de semer la parole du royaume dans les cœurs. Cela ne confère aucune place spéciale aux Juifs. Au verset 19, Jésus dit « Toutes les fois que quelqu'un entend ». La porte est ainsi ouverte à tout auditeur de la parole, quel qu'il soit. Ce qui importe, c'est d'écouter avec intelligence. Les obstacles sont les activités du diable, l'inconstance de la chair, les soucis et les richesses de ce monde. Mais la parole est reçue par certains et du fruit est produit en quantités différentes. Cette méthode de travail divin est toujours actuelle. Elle caractérise le jour dans lequel nous vivons. Le christianisme est fondé non pas sur ce qu'il trouve dans l'homme, mais sur ce qu'il produit par la puissance de Dieu. Les disciples sont intrigués par le passage au langage des paraboles. Leur question permet au Seigneur d'expliquer qu'il a adopté ce mode d'enseignement afin que les mystères, ou secrets, du royaume des cieux reste caché à la masse incrédule et ne soit révélé qu'à ceux qui croient. Ceux qui, dans leur incrédulité, avaient rejeté le Seigneur, avaient de ce fait même fermé les yeux à la vérité. Maintenant, ils parlaient en parabole pour qu'ils demeurent dans leur incrédulité. C'est ainsi que la prophétie d'Ésaïe devait s'accomplir en eux. Cette même prophétie est rappelée par Jean dans son évangile, chapitre 12, verset 40. Elle est également citée par Paul, une troisième et ultime fois, dans le dernier chapitre du livre des Actes. Ce n'était que l'exercice du gouvernement de Dieu. Pour les croyants, les paraboles sont très instructives, et comme le verset 17 le dit, elles contribuaient à faire connaître aux disciples des choses que les prophètes et les justes d'autrefois avaient désiré voir, mais qui restaient hors de leur portée. Toutefois, pour comprendre la parabole du semeur, même les disciples avaient besoin d'une explication de la part du Seigneur. Celle-ci fournie, Jésus prononce 3 autres paraboles aux oreilles de la multitude. Il ne donne l'explication de la deuxième parabole qu'une fois que la foule a été congédiée et qu'il s'est retiré dans une maison avec ses disciples. Il est donc évident que les 4 premières ont été prononcées en public et traitent des manifestations extérieures du royaume, tandis que les 3 dernières ont été dites en privé et s'occupent de sa réalité intérieure et plus cachée. La première parabole, comme nous l'avons mentionné, donne la clé de tout le reste. Elle nous montre que l'établissement du royaume résultera du fait que la parole du royaume aura été semée et non pas de l'obéissance à la loi de Moïse. Toutes les autres paraboles nous disent ensuite à quoi le royaume des cieux est semblable, et chacune de ces 6 similitudes présente des traits qui n'auraient pas pu être discernés à la lumière de l'Ancien Testament. Le royaume dans sa gloire y avait été annoncé, mais ici, nous voyons qu'il doit revêtir un caractère nouveau qui le distinguera avant l'établissement de la gloire. La deuxième parabole, celle du froment et de l'ivraie, montre que, pendant la période où le royaume est caractérisé par le Fils de l'homme semant de la bonne semence, le diable sera aussi un semeur, et ses fils se trouveront parmi les fils du royaume. Par conséquent, jusqu'à l'heure du jugement, lorsque le Fils de l'homme ôtera tout le mal de son royaume, il y aura, en un mot, mélange. Souvenons-nous que, dans cette parabole, le champ, c'est le monde. Verset 38. Il n'y a donc nullement la pensée ici que les fils du méchant doivent être tolérés dans l'assemblée. Le royaume couvre une sphère plus vaste que l'Église, et il n'est pas possible de démêler les choses dans le monde avant la venue du Seigneur. C'est à la consommation du siècle que, par le ministère des anges, les méchants seront jetés au feu. Le froment doit être assemblé dans le grenier. Dans l'explication qu'il donne, le Seigneur va plus loin et parle des justes qui resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Par l'emploi de cette figure, le Seigneur place les saints dans une position céleste. Aussi ne sommes-nous pas surpris de trouver plus loin la pleine révélation de l'appel céleste. Il est intéressant de remarquer que dans cette parabole, le Seigneur parle du royaume des cieux, du royaume du Fils de l'homme et du royaume de votre Père, montrant que le royaume est un, quelle que soit sa désignation. Il a néanmoins différents départements, si nous pouvons nous exprimer ainsi, et peut, par conséquent, être considéré de différentes manières. La troisième parabole, celle du grain de moutarde, montre que le royaume doit être caractérisé par le développement. Il croîtra et prendra de l'ampleur aux yeux des hommes, mais il deviendra un abri pour les agents du mal, car dans la première parabole, quand le Seigneur explique qui sont les oiseaux, il dit « le méchant vient ». Et nous savons que Satan agit par des agents humains. La quatrième parabole, qui occupe un seul verset, verset 33, montre que, comme nous pouvions nous y attendre par ce que nous venons de voir, le royaume sera graduellement pénétré par la corruption. Dans l'Écriture, le levain est toujours employé comme image de ce qui corrompt. Nous avons ici le seul passage où certains voudraient le voir désigner ce qui est bon. Mais cela vient de ce qu'ils ont un système d'interprétation qui réclame un tel sens. Ils s'imaginent que l'Évangile va imprégner le monde de bien. Cette altération subite de la signification du levain aurait dû leur paraître suspecte. Les pensées qui la rendent nécessaire ne peuvent être que fausses. Ici donc, le Seigneur annonce que le royaume se présentera aux yeux de l'homme sous une forme caractérisée par le mélange. Son développement fera de lui une institution imposante dans laquelle les agents du mal trouveront une demeure et, en conséquence, il connaîtra un processus de pénétration par le mal. Jésus parle certes en prophète, car c'est exactement ce qui s'est produit dans cette sphère terrestre où l'on professe reconnaître le gouvernement du ciel. Mais dans l'intimité de la maison, le Seigneur ajoute trois autres paraboles pour ses disciples. Là, nous avons le royaume du point de vue divin. Et si nous avons l'onction de l'Esprit pour nos yeux, nous aussi nous y verrons ce que Dieu voit. D'abord, nous constaterons qu'il y a quelque chose dont la valeur est cachée. Le champ, ici, est toujours le monde, et le Seigneur l'a acheté pour s'assurer le trésor caché. Cet achat doit être distingué du rachat, car des hommes méchants vont jusqu'à renier le maître qui les a achetés. 2 Pierre 2, verset 1. Ils ont été achetés, mais non pas rachetés. Sinon, ils n'iraient pas au-devant d'une prompte destruction. Le royaume est établi pour que la possession du trésor caché dans le monde puisse être assurée. Puis, il y a la parabole de la perle de très grand prix. Dans le royaume tel qu'il existe aujourd'hui, il s'agit de chercher et d'acquérir cet objet, caractérisé aux yeux de Dieu par sa perfection unique. Nous avons ici sans doute en figure ce dont le Seigneur parlera au chapitre 16, comme mon assemblée. Certes, il a acheté le champ, mais il a aussi acheté la perle, et dans les deux cas, il se présente comme vendant tout ce qu'il a pour le faire. Il renonce à tout pour acquérir ce qu'il désire posséder, dans l'esprit de 2 Corinthiens 8, verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, comment, étant riche, il a vécu dans la pauvreté pour vous, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Nous ne pouvons acquérir Christ en vendant quoi que ce soit de nos biens qui sont sans valeur, mais c'est ce que lui a fait pour nous. C'est ce qu'il gagnera par le moyen du royaume des cieux dans sa forme mystérieuse actuelle. Enfin, le royaume est semblable à un filet rassemblant des poissons tirés de la mer des nations. Il y en a de toutes sortes, mais nous voyons qu'une sélection est opérée. Cette parabole et celle du froment et de l'ivraie offrent une ressemblance. Dans les deux cas, à la consommation du siècle, une séparation est effectuée par des anges. Les méchants sont séparés des justes et sont jetés dans la fournaise de feu. Mais il y a aussi une différence importante, car dans la première parabole, les méchants sont dans le monde comme résultat de ce que Satan a semé, tandis qu'ici, la parole du royaume est jetée comme un filet parmi les nations et des gens de toutes sortes professent la recevoir. À la consommation du siècle, la séparation aura lieu. Les vrais élus de Dieu seront rassemblés et les méchants seront rejetés. N'oublions jamais à quoi le royaume est semblable au point de vue divin. C'est de toute importance. Il a pris ce caractère particulier en raison du rejet du vrai fils de David et de son absence due au fait qu'il est dans les cieux. Malgré le mélange et la corruption qui le distingueront extérieurement, il doit se produire cette œuvre divine intérieure par laquelle Dieu obtiendra le trésor caché, la perle de très grand prix et tous les bons poissons renfermés dans le filet. Avons-nous compris toutes ces choses? Les disciples estimaient avoir compris, mais plus tard, quand ils eurent reçu l'Esprit, ils ont certainement découvert combien peu cela avait été le cas. Nous réalisons, nous aussi sans doute, que nous avons bien peu compris, car le royaume dans sa forme actuelle n'est pas aussi facile à comprendre que lorsqu'il sera manifesté publiquement. Des choses tout à fait nouvelles par rapport à l'Ancien Testament ont la place principale. Aussi est-il parlé des choses nouvelles et des choses vieilles, et non pas vieilles et nouvelles. L'accent est mis sur les nouvelles. Ce chapitre se termine par le retour de Jésus dans son propre pays dont les habitants à cette époque étaient complètement incrédules. Ils ne discernaient pas en lui Emmanuel, ni même le fils d'Abraham, le fils de David. Pour eux, il était seulement le fils du charpentier dont ils connaissaient bien les parents. Leur familiarité incrédule est pour eux une pierre d'achoppement. Sa puissance était toujours la même, mais leur incrédulité mettait un frein à son exercice, exactement comme autrefois l'incrédulité de Joas avait imposé une limite à ses victoires. Voir 2 Rois 13, versets 14 à 19.